Donc, on va aller dans Genèse, au chapitre 17, les versets 15 à 27. Autrement dit, on termine le chapitre aujourd'hui. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit dans son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face! » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva d'au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. Alors, donner le titre du sermon ce matin, « L'alliance divine complétée ». On avait vu la semaine dernière comment Dieu avait intervenu dans la vie d'Abraham pour le rassurer. Et ici, il va venir lui donner plus de détails, des compléments, de la précision dans l'alliance. C'est pour ça que je l'appelle l'alliance divine complétée. Il va y avoir des choses nouvelles qu'Abraham va apprendre qu'il ne savait pas. Alors Dieu continue de lui donner de l'information concernant son alliance. On a vu la semaine dernière que l'alliance divine se développe méthodiquement et à chaque fois Dieu en rajoute un peu plus et devient de plus en plus précis. Quand on commence dans les Écritures, ça commence avec Genèse 3:15, quand Dieu prophétise la venue future du Messie. Dans Genèse 12, après ça, dans Genèse, après ça, il y a eu l'entente qu'il a pris avec... il a promis qu'il n'y aurait plus de qu'il y aurait plus de déluge. Là. Noé, avec Noé. Après ça, dans Genèse 12, puis dans Genèse 15, puis dans Genèse 17, on a différents aspects de l'alliance. Alors, on voit que ça continue à se développer. Dieu donne de plus en plus de précision à son alliance. Alors, on va voir que les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu fait tout pour sa gloire et qu'il préserve jalousement son indépendance. On a vu que Abraham et son épouse Sarah avaient eu la tentation d'aider Dieu, on l'a dit entre guillemets. Là. C'est comme s'ils avaient pensé que, la femme a dit, je vais lui donner ma servante, il va avoir un enfant de la servante, et l'enfant qu'il va avoir... à l'époque, on considérait que c'était ton enfant, qu'elle pensait que ça deviendrait le fils de la promesse. Parce qu'on a vu qu'est-ce qui avait provoqué cette diminution-là dans la foi. C'est le temps. Mais je pense que ça nous donne une excellente leçon à nous. Dieu fait des promesses et le temps, Dieu ne le mesure pas de la même façon que nous. Nous, on voudrait que ça soit tout de suite. Puis pour nous, 25 ans, c'est une éternité. Alors, Dieu a besoin de rappeler, même si c'était promis, même si il avait déjà dit à Abraham dans Genèse 12, dans Genèse 15, dans Genèse 17 aussi, toutes les plus de détails, il avait besoin d'être rassuré par Dieu lui-même. Je pense que ça nous donne la leçon que Dieu intervient dans nos vies à nous aussi. Mais il intervient souvent dans les moments où on est, comment je dirais bien ça, dans un état de faiblesse par rapport à la foi, où Dieu vient nous encourager, Dieu vient nous donner des détails et il nous fait grandir dans la foi. Mais Dieu préserve son indépendance. Vu qu'il avait promis que ce serait son fils et qu'il n'en voyait pas, il avait besoin encore une fois de venir lui préciser. Voyez-vous, la semaine dernière, il avait dit qu'il avait un fils, mais il n'avait pas donné son nom. Là, non seulement il donne le nom, mais il donne l'époque. Dans un an, tu vas avoir un fils. Puis ça va être ton fils, ça ne sera pas le fils. Alors Dieu garde son indépendance et il veut démontrer, il laisse pas les plans charnels de l'homme s'interposer dans le déroulement de son plan. Alors les interventions charnelles et maladroites ou malveillantes de l'homme, il ne les laisse pas s'interposer pour contrecarrer ou s'opposer à ses plans. Quand on prend à partir du début de la Genèse, puis qu'on se rend jusqu'à la venue de Jésus-Christ, si quelqu'un ferait une étude là-dessus, là, il y en aurait pour des mois, même des années, je dirais, à regarder comment Satan s'est pris pour essayer de contrecarrer les plans de Dieu, pour empêcher la venue du Messie. Il y a plein de choses qui ont été faites. Est-ce que le Seigneur, bien sûr, ces choses-là, il a laissé arriver, mais le Seigneur trouvait toujours un moyen de passer par-dessus et de, on m'a dit, de démontrer que peu importe ce que tu essayes de faire, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce qu'on retient de la leçon d'aujourd'hui, c'est bien entendu, c'est que l'Éternel intervient gracieusement et miséricordieusement à un moment précis de la vie d'Abraham et de Saraï, mais qu'en même temps, ça nous donne la leçon que nous aussi, dans nos vies, on va en avoir des moments difficiles. On va en avoir des moments où la foi est chancelante, où on a des difficultés, de la misère. Et c'est souvent dans ces moments-là où Dieu vient nous visiter. Pas toujours à la manière d'Abraham, où il vient nous parler verbalement, qu'on entend sa voix, mais la parole de Dieu, là, quand on l'ouvre, il nous parle des fois. Et des fois, ce qu'on lit, ça peut paraître des hasards, mais ce qu'on lit, c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre la journée même où on l'entend. Alors, Dieu voulait démontrer à Abraham que la venue du Messie, on avait vu que la promesse a été faite à Abraham et à sa semence. On a vu Galates 3:16, c'est un verset clé pour nous comprendre ça, parce que dans le Nouveau Testament, Galates 3:16 nous précise qui était la semence. La semence, ça dit que c'est Christ. Donc, Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa semence, et la semence, c'est Christ. Toutes les promesses qu'il y avait dans l'Alliance étaient pour Jésus-Christ. Alors, ça s'est fait progressivement, le dévoilement de l'Alliance. Ça s'est d'abord manifesté à Adam, Genèse 3:15, où Dieu promet la venue future du Messie. Puis à Noé, dans Genèse 6, Genèse 9. Puis à Abraham, Genèse 12 à 17. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Et ça va se poursuivre après. Parce que là, nous, on est rendu là, mais on sait que ça va se poursuivre après. Ça va se poursuivre avec Moïse, et ça va se poursuivre ensuite avec David, l'alliance davidique qu'on appelle, l'alliance mosaïque. Et tout cela, éventuellement, c'est un développement de l'alliance pour la compréhension de comment le Messie va venir. Et ces alliances-là, bien entendu, ça pointe, qui sont dans l'Ancien Testament, pointent vers la venue future du Messie, le Christ. Un autre verset clé pour comprendre l'alliance divine avec Abraham, c'est Éphésiens 2:12. Éphésiens 2:12, ça dit, « Vous étiez, alors il parle à des païens, il dit, « Vous étiez en ce temps-là hors du Christ, séparés de la République d'Israël et étrangers, aux alliances, au pluriel, de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. » Je reviens avec l'idée parce que Pascal Deneau a beaucoup travaillé sur la doctrine de l'alliance. Il en a fait sa thèse de maîtrise. Et c'est un verset clé parce qu'il va l'utiliser souvent pour dire les promesses que Dieu a faites de l'alliance dans l'Ancien Testament. Ça dit « aux alliances, au pluriel », donc l'alliance avec avec Noé, avec Adam, avec Abraham, ensuite avec David. Ce sont tous les alliances de la promesse. Ils se développent et se précisent de plus en plus en avançant dans le temps. Alors, ça dit aux alliances de la promesse, et c'est un verset clé pour vraiment bien comprendre les doctrines de l'alliance. Alors, on parle du développement de l'alliance jusqu'à la venue du Christ. Parce que ça dit aux alliances de la promesse. La promesse, c'est à quoi? La venue du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, les Écritures dans le Nouveau Testament nous disent que l'alliance s'est transformée en la nouvelle alliance. Parce que le Nouveau Testament, des fois on l'appelle le Nouveau Testament, mais dans le fond on pourrait le traduire aussi par Ancienne Alliance ou Ancien Testament ou Nouvelle Alliance. Donc l'Ancienne Alliance, c'était le développement et la précision de la venue future du Messie jusqu'au Messie. Quand Jésus est arrivé, là on a changé d'alliance. Et où on voit ça, c'est dans Hébreux, au chapitre 8, les versets 6 à 13, où ça nous précise que là, on a changé d'alliance. Et on va faire des commentaires là, tantôt là-dessus. Mais maintenant, le Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il est en train de parler des alliances de l'Ancien Testament, puis il dit qu'elle avait un problème. Cette alliance-là avait un problème. C'est parce que c'était fait avec des animaux. C'était fait pas avec Jésus. Alors, ça dit, il n'y aura pas eu d'en établir une seconde. Donc, dans Hébreux, ça nous dit que Dieu avait besoin d'établir une nouvelle alliance parce que la première avait ses défauts. Alors, verset 8, car en leur adressant des reproches, Dieu a dit aux Juifs, voici les jours viendront, dit le Seigneur, où que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où, les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Quelle était cette alliance-là? L'alliance mosaïque. Le Seigneur leur avait donné la loi et leur dit qu'ils n'ont pas persévéré dans son alliance. Verset 10, ça dit, Or, voici l'alliance que je traiterai, il parle au pluriel, que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, Connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, parce que je serai apaisé à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 13 est très important. En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première, l'Ancien Testament. Or, ce qui est devenu ancien, et a vieilli et est près de disparaître. Autrement dit, quand Jésus va venir, quand la lettre aux Hébreux a été écrite, pourquoi cette lettre-là a été écrite aux Hébreux? Les Hébreux étaient tentés de retourner dans l'ancienne façon de faire, étaient tentés de retourner dans l'ancien système sacrificiel des animaux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur rappelait que Jésus, quand il est venu, il est venu établir une alliance nouvelle, et cette alliance-là, nouvelle-là était hautement supérieure à l'autre, parce qu'elle était sans défaut, elle. Pourquoi l'alliance est nouvelle? Parce que c'est l'alliance qui a été prise au ciel entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour que... Dieu savait que la loi, là, on l'a vu ce matin dans Romains 3, la loi a été donnée pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas capables de l'accomplir et que nous ne sommes pas capables non plus de subir le châtiment qui y est rattaché parce que l'éternité n'aura pas suffi. Alors il fallait que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et la nouvelle alliance, c'est que Dieu a dit, je vais envoyer Jésus, ce que ça dit, je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Donc la première alliance, celle qui parle de la venue de Jésus, elle avait des défauts. C'est celle que C'était représentatif, c'était symbolique. Les animaux, quand on tuait un animal, c'était symbole que Jésus, lorsqu'il viendrait, on l'appelle l'agneau. C'est lui l'agneau qui a subi le châtiment, qui aurait dû être le nôtre à notre place. Alors, bien entendu, on va revoir les deux versets qui sont très importants pour bien situer notre compréhension de l'Alliance ancienne par rapport à la nouvelle. C'est vraiment celle qu'on a vue tout à l'heure, Éphésiens 2:12 et Galates 3:16. Je reviens avec parce que c'est une importance capitale à saisir. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Là, on pourrait, si on lit ça rapidement, on se reporte à penser sa semence, c'est sa descendance, c'est ses enfants, c'est les enfants de ses enfants. Mais il n'est pas dit aux semences, au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa semence qui est Christ. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence, et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham ont rapport à ceux qui sont en Christ. Alors, c'est bien important de saisir cela. Quand on parle de nouvelle alliance, Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans l'éternité, en conseil, ont décidé qu'il y aurait une nouvelle alliance et que cette nouvelle alliance-là, ce serait elle qui serait la base du salut des hommes, à la fois des Juifs et à la fois de nous, à partir de l'apparition de Jésus. Quand on comprend la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne, on a fait un grand pas dans la théologie. Alors, il faut, à quelque part, étudier ces choses-là. C'est pour ça que je me suis donné la confession de foi. À un moment donné, quand tu arrives, il faut que tu comprennes ces choses-là. Parce qu'il y a un temps que tu ne comprends plus pourquoi la nouvelle alliance, le Nouveau Testament par rapport à l'ancien, c'est quoi les rapports qu'il y a entre les deux. Alors ici, on va voir que Dieu, le titre que j'avais donné, c'est que l'alliance divine est complétée, versets 15 à 17. Dieu dit aussi à Abraham, pourquoi il complète, on va voir qu'il y a certains éléments. Il dit, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Quand Dieu change le nom d'une personne dans l'Ancien Testament, c'est très hautement significatif. Son nom était Abram, qui veut dire père élevé. Et il l'a changé pour père d'une multitude. Donc, il était élevé par rapport à ce qu'il a pris du peuple, qu'on pourrait dire des Juifs. Il l'a élevé. Mais à partir du moment où il dit, tu vas être Abraham, c'est que c'est le symbole qui va étendre son salut à toutes les nations. Père d'une multitude. Et ici, il change celui de Sarah, de Saraï. Qui voulait dire princesse, qui voulait dire ma princesse, je pense que je me souviens bien. Ah, c'est ça. Et il le change pour devenir princesse. Et dans le verset 16, il dit, et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois, chefs de peuple sortiront d'elle. Alors pour une femme stérile qui est rendue à 90, qui se fait faire une pareille promesse, elle doit réfléchir un peu. Il dit, non seulement je vais te donner un fils de elle, mais elle va produire une multitude, puis il y a des chefs, des rois de chefs qui vont sortir d'elle. Verset 17, on a la réaction d'Abraham. Alors Abraham se prosterna la face en terre. Il avait besoin d'être encouragé, mais la révélation que Dieu lui fait, que c'est pas Ismaël, ton fils que tu as eu avec la mère porteuse, qui va être celui qui va être dans la lignée messianique. C'est le fils que je vais te donner à toi. Et il lui fait la promesse ici. Alors lui, là, il avait vraiment besoin d'encouragement. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe la face contre terre. Adoration. Pouf! Tombe la face contre terre. Et il sourit. Et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans. Même si Dieu lui dit, il y a encore un petit quelque chose dans son esprit qui dit, ouais, mais j'ai 100 ans, là. Puis c'est comme s'il voulait rappeler à Dieu, mais ma femme, là, elle a 90, là. Alors, et Sarah, âgée de 90 ans, aurait-elle un enfant? Même si Dieu vient de lui dire, il semble qu'il y a encore comme un petit quelque chose, il se pose des questions. C'est un peu normal parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Alors, mais Dieu a besoin de venir rassurer son serviteur quant à ces choses-là. Alors, le Seigneur vient attester à Abraham que sa femme sera mère de l'ancêtre de Christ. Autrement dit, le Christ va devenir par Isaac, Jacob et ensuite toute la lignée jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à son arrivée. Elle va être la première maille de toute cette chaîne-là qui va arriver jusqu'à Jésus-Christ. Alors, il vient lui attester que sa femme sera la mère de l'ancêtre de Christ et qu'elle sera partie prenante de toutes les dispositions et privilèges de l'Alliance. Alors, c'était intéressant de voir que, avant, Dieu lui avait fait une promesse à lui et à sa postérité, mais là, il vient préciser, mais ta femme, elle aussi va faire partie de toutes les dispositions et de tous les privilèges qui sont contenus dans l'Alliance. Et dans le verset 15, une des premières choses par lesquelles on voit que Dieu fait des déclarations à Abraham et qu'il change de nom. Lorsque le Seigneur lui-même change le nom d'un de ses élus, ce fait est hautement significatif. L'ancien nom, Saraï, signifiait ma princesse ou celle qui lutte. Son nom sera désormais Sarah, qui signifie princesse, car elle devient la mère de la lignée messianique. Et dans le verset 16, il vient lui dire aussi une déclaration divine qu'elle va être bénie. Il lui assure à Abraham que son épouse Sarah sera grandement bénie. Il lui donnera un fils de son propre sein et non d'une mère porteuse. Imaginez-vous, quelqu'un de 90 ans qui se fait dire, l'année prochaine, là, à cette date-ci, tu vas avoir un enfant. Mettons-nous à leur place et on va réfléchir. On comprend pourquoi que dans la foi, des fois, il y a des moments où on chancelle un peu, on a de la misère. Et il vient lui donner une bénédiction dans le verset 17. Alors, Abraham va exprimer sa foi et sa joie profonde en adorant. Prendre sa face. Romains chapitre 4, versets 17 et 21. Souvent, quand on fait les liens comme ça entre les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament, ça nous aide à saisir. Et là, il parle dans Romains 4, versets 17 à 21, dans le contexte, il parle d'Abraham. On lit dans le Nouveau Testament, mais Dieu parle encore d'Abraham dans le Nouveau Testament. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de beaucoup de nations et le père de tous devant le Dieu devant qui il a cru, lui qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Contre espérance, mais avec espérance, il crut en vue de devenir père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'ayant point faibli dans la foi, il ne regarda pas à son corps déjà amorti, vu qu'il avait près de 100 ans, ni à l'amortissement des organes de Sarah, il n'eut point d'hésitation sur la promesse de Dieu, par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Alors Abraham n'a pas été incrédule. Quand Dieu lui a dit, il y a eu comme ouais, comment ça se fait, 100 ans, 90, mais il a quand même cru. Que ça dit dans Romains, qu'il a cru, même que si son corps était rendu à un point où normalement il ne devrait pas avoir d'enfant, ni sa femme. Alors là, il y a eu une joie très profonde, une adoration, un ravissement, un émerveillement. Sûr que tu te fais dire ça, tu as 100 ans. Puis tu as vraiment la foi, même si tu te demandes comment ça va se produire, tout ça, il me semble que ça ne se peut pas. Au moins, il a adoré en le sens que oui, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Et il va le voir s'accomplir sous ses propres yeux. Alors, dans les versets 18 à 22, on voit que Dieu veut compléter les déclarations concernant son alliance. Et Abraham dit à Dieu, après que Dieu lui a eu parlé, bon, OK, ta femme va avoir un enfant, il dit, je te prie qu'Ismaël vive devant ta face, devant toi. Autrement dit, il avait eu son premier fils. Son fils t'a déjà rendu à 13 ans. Mais lui, pour lui, il aimait son fils. C'est important qu'il intercède auprès de Dieu parce qu'en disant, en entendant que ce soit le propre fils de Sarah qui deviendrait le début de la lignée messianique, bien entendu, il a pu penser dans son esprit, « Ouais, mais mon fils, qu'est-ce qui va y arriver? » Il a pu penser, « Ah, il va être complètement exclu, non seulement lui, mais aussi sa semence, sa descendance va être exclue. » Alors, il a intercédé auprès de Dieu. Il y a eu une intervention divine, il y a eu une révélation divine, mais ça nous montre qu'on peut toujours parler de nos inquiétudes à Dieu quand on a des choses qui nous dérangent dans la vie. Et Abraham dit à Dieu, « Je te prie qu'Ismaël vive devant toi. » Verset 19, « Et Dieu dit, « Certainement, ta femme t'enfantera un fils et tu appelleras son nom Isaac. » Voyez-vous, c'est une affaire nouvelle qu'il savait l'alliance, c'était pour un enfant, mais là, non seulement le Seigneur lui donne un nom, Isaac, qui veut dire « rire ». Le mot hébreu veut dire « rire ». Pourquoi il a ri? Parce que lui, il a ri, puis sa femme a ri aussi. Alors, il dit, dans le but de vous rappeler toutes ces choses-là, je vais appeler le fils rire. Alors, t'entendais le mot Isaac, tu devais te souvenir que, bon. Il dit, et son nom sera Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il est en train de dire que Isaac, ça va continuer après, jusqu'à l'arrivée du Messie. Ça a été long, là. On compte ça le nombre de centaines d'années que ça a pris, hein? Beaucoup de centaines d'années. Et là, après ça, il répond à la requête d'Abraham. « Je t'ai aussi exaucé, touchant Ismaël. Voici, je l'ai béni. Je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera, l'année qui vient en cette même saison. » Plusieurs choses nouvelles qu'il apprend. Là. Sa femme va avoir un enfant. Quand va avoir l'enfant? C'est quoi? Ça va être son nom? Et que l'alliance est perpétuelle. Donc, il est en train de garantir que tout ça, ça va se rendre jusqu'au Christ. Après ça, ça dit, t'enfanteras l'année qui vient en cette même saison. Et Dieu, ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham. Quand Dieu finit sa révélation, son encouragement, il redonne la vie normale à son serviteur. Ça doit être quelque chose qui doit être un petit peu, on pourrait dire, dérangeant quand Dieu te parle direct. Quand il s'en va, tu retombes à la vie normale. Mais il y a des fois, tu avais besoin de l'intervention directe de Dieu. Tu avais besoin de l'encouragement que Dieu te donne. Alors Dieu, dans le verset 18, on voit que Abraham a vraiment une sollicitude envers son fils. Il a peur pour son fils. Il souhaite que Dieu l'intègre dans son alliance. Il souhaite que Dieu le sauve. Dieu, si on lit le texte très attentivement, il ne dit pas que son fils Ismaël va être sauvé. Mais il n'exclut pas non plus que dans la lignée d'Ismaël, il puisse y avoir des élus. Parce que dans sa lignée, c'est les nations arabes, les 12 princes dont on parlait tantôt. Il dit, oui, pour ton fils, vive devant moi. Oui, ils vont vivre devant moi, mais il semble que la bénédiction que Dieu veut lui donner soit plus de nature matérielle et temporelle que de nature spirituelle. Alors Abraham aime son fils, Ismaël, et il exprime au Seigneur son désir qu'il ne soit pas rejeté complètement et qu'il désire son salut. Abraham a vraiment mal à se départir de l'idée qu'Ismaël ne soit pas le fils promis. Et il demande à Dieu qu'Ismaël et sa descendance aient part à la faveur divine. Et dans les versets 19 à 21, on voit que la réponse du Seigneur se précise aussi. Alors il lui dit la certitude que le Messie descendra de son fils naturel dans le verset 19. Alors Dieu indique à Abraham que Sarah lui enfantera un fils miraculeusement, malgré les difficultés qui semblent insurmontables. Mais c'est un miracle, ça. 90 ans, une femme qui accouche à 90 ans. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors l'âge respectif du couple Alors, les difficultés qui étaient insurmontables, l'âge respectif, un 100, l'autre 90, et en plus, était stérile. Donc, aux yeux de l'homme, c'était insurmontable. Et il lui dit que le fils de la promesse, c'est Isaac, et non pas son fils Ismaël. Alors, le Seigneur commande même son nom, signifiant « rire », et il le rassure qu'en Isaac, les promesses de l'Alliance continueraient d'une façon perpétuelle par sa postérité. Isaac, Jacob, et ça continue jusqu'à l'arrivée du Messie. Et l'exaucement de la prière dans le verset 20. Le Seigneur ne dit pas expressément qu'Ismaël sera un élu, mais la réponse ne suggère pas que ses descendants, les Arabes, soient exclus de la grâce à salut. Il y en a eu des Arabes de Chouré, il y en a encore aujourd'hui. La réponse suggère que la bénédiction d'Ismaël sera surtout de nature temporelle. Il sera béni, il se multipliera avec abondance, il deviendra une grande nation et engendrera 12 princes. Quand on regarde aujourd'hui les Arabes, c'est quoi la caractéristique? Ils sont très nombreux, puis ils sont très riches. Hein? Le pétrole, ils sont très riches les Arabes. Alors qu'est-ce que Dieu a dit qui se peut arriver? C'est arrivé, parce que c'est ça. La Romains 9, versets 6 à 9, ça dit « Toutefois, il ne se peut pas faire que la parole de Dieu soit anéantie. Mais tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas pourtant d'Israël. » Des fois, quand on lit les Écritures, il faut s'arrêter à réfléchir un peu. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Ça veut dire que parmi le peuple juif, il y en a qui n'ont pas été sauvés. Et le vrai Israël, aux yeux de Dieu, c'est l'Israël des gens sauvés parmi le peuple juif et tous ceux qui seraient sauvés parmi les nations. L'ensemble de tout ça, là, ça, c'est l'Israël de Dieu. Alors, ça dit dans le verset 7, « Car pour être de la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais c'est en Isaac qu'on doit considérer sa postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés pour semence. Car voici la parole de la promesse, je viendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. » On voit la réalisation de ça. C'est quand Jésus est venu et a fait des reproches aux Juifs parce que « Nous avons pour père Abraham! » Seigneur, et Jean-Baptiste les a repris sévèrement. Dieu peut faire de ses pierres des enfants à Abraham. Autrement dit, il est en train de lui dire que ce n'est pas à cause que tu viens d'Abraham, que tu viens de la nation juive, que c'est automatiquement le salut pour toi. Dans Romains 9 qu'on vient de lire, c'est en plein ça que ça dit. Ce n'est pas à cause que tu es un Israélite que c'est automatique que tu es sauvé. La grâce souveraine de Dieu s'exerce autant dans le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, que dans le peuple de Dieu parmi les nations. Et le vrai Israël, aux yeux de Dieu, c'est l'ensemble des sauvés de l'Ancien Testament qui faisaient partie de la nation juive et l'ensemble de toutes les régénérés de l'Église mis tout ensemble, ça c'est l'Israël de Dieu. Prends du temps à saisir ça, je peux vous dire ça. Moi, ça m'a pris du temps, ce gars. Vous autres, vous devez savoir ça, ça doit faire longtemps. Alors, les aspects concrets de l'établissement dans le verset 21, et il dit que l'alliance divine va se maintenir en Israël, et il lui donne non seulement des encouragements, mais il dit, écoute, l'année prochaine, là, à ce date-ci, ta femme va l'avoir son bébé. Fait qu'il imagine qu'il doit se dire, « Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. » Et là, Dieu permet que son serviteur retrouve sa vie normale après l'intervention divine. Dieu, ayant achevé de parler, remonta de devant Abraham. Alors, la révélation divine, c'est clair dans le contexte, a été donnée pour élargir la compréhension de l'alliance d'Abraham et aussi la préciser. Ça commence à être précis, ça. Écoute, si toi, tu penses que le fils de la promesse, c'est Ismaël, non, c'est ton fils, puis il va s'appeler Isaac, puis il va venir au monde dans un an. Ça commence à... Puis c'est Dieu lui-même qui te parle. Alors, quelque part, il faut que, même s'il y a des petits problèmes dans ta tête, ça bouscule, tu es sûr que ça va arriver. Alors, dans le verset 23-27, le Seigneur avait déjà instruit dans le verset, dans l'étude de la semaine passée, on avait vu que Dieu avait voulu que le signe de l'alliance, ce soit la circoncision. Alors, à cette époque-là, c'était vraiment circoncire l'enfant. Voyez-vous, la première chose que Abraham a faite après que Dieu l'a eu précisé, toutes ces choses-là, il n'a pas demandé à Dieu, hey, tu m'avais dit. Il a compris tout de suite que c'était qu'il fallait qu'il fasse ça maintenant. Imaginez-vous, tu as 100 ans, puis tu décides de te circoncire. Oh, aïe, aïe. Puis ton fils a 13 ans, puis tu décides de le circoncire. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le signe que Dieu voulait pour son peuple et que ne pas le faire, c'était une exclusion du peuple, une exclusion du peuple de Dieu. Alors, la circoncision, c'est ce que ça dit dans les versets 11 et 14, vous circoncirez votre chair, qu'on avait vu la semaine passée. Cela deviendra un signe d'alliance entre moi et vous. Tout mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous, dans vos âges, tant celui qui naît dans la maison que celui qui est acquis à prix d'argent de tout fils étranger et qui n'est pas de ta postérité. On ne manquera pas de circoncire tant celui qui est dans la maison que celui qui est acquis de ton argent. Et mon alliance sera dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis, qui ne sera pas circoncis dans sa chair, cet homme-là sera retranché de ses peuples, il a enfreint mon alliance. Dieu précise à Abraham, et la première chose qu'il fait, il est temps de réaliser ce que Dieu veut qu'on fasse comme un signe de l'alliance. Alors, dans le verset 23-27, Abraham prit Ismaël, son fils, et tous les hommes nés dans maison, et tous ceux qu'il avait acquis de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Israël, ils circoncirent leur chair en ce jour même. On voit qu'une obéissance immédiate, sans discussion, comme Dieu le lui avait dit. Verset 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis dans sa chair, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans sa chair. En ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, tant nés de la maison acquis à prix d'argent entre les étrangers, furent circoncis avec lui. Le rite divin de la circoncision est maintenant établi pour la première fois. Ça ne veut pas dire que les peuples avant, il n'y avait pas personne qui circoncisait, mais dans le sens religieux, dans le sens spirituel, c'était la première instauration, la première fois que ça se faisait. Parce que là, Dieu venait de faire comprendre à Abraham que oui, ça va arriver par là. Et il fallait qu'il... Hey, imaginez-vous, à 99 ans, là, se faire circoncire. À ce moment-là, c'était pas les hôpitaux, là, puis c'était... Disons que je préférerais m'abstenir. Alors, l'obéissance est immédiate. On voit une chose, c'est que pas Dieu, mais Abraham, n'a aucune hésitation. Il n'y a aucune discussion. Il ne dit pas à Dieu, mais il a compris que Dieu l'avait encouragé, lui a fait comprendre quelque chose, et sa façon de répondre, c'était, on va établir l'alliance de la manière dont toi, tu veux qu'elle soit établie. C'était la circoncision. Que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, tu le faisais pareil. Alors, c'est une obéissance qui est confiante. Alors, à 99 ans, puis 90 pour elle, et il fait circoncire son fils de 13 ans. On va voir plus tard les problèmes qu'il y a eu avec Ismaël, et qu'il y a eu là, qu'il y a eu plus tard avec les Arabes, qui sont devenus des ennemis d'Israël. Alors, son obéissance est aussi une caractéristique que là, c'est qu'elle elle est personnelle. Parce que Dieu avait dit tous les mâles. Et lui est un mâle, il dit, tout le monde va y passer. Ceux achetés, ceux de ses propres... toute la famille. Son fils, Ismaël, a 13 ans. Qu'est-ce que vous voyez comme symbole que Abraham veut le circoncire son fils Ismaël quand même? Même s'il savait que Dieu lui avait pas confirmé qu'il serait dans l'alliance de grâce. Il le circoncit quand même. En le circoncisant quand même, n'était-ce pas... qu'il était comme c'était comme une confiance que peut-être Dieu lui faisait grâce. Du moins, c'est la façon qu'il s'y prenait pour l'exprimer. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Alors, louons le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce et son amour envers le Père des croyants. On le voit là. Mais je pense qu'une des leçons qu'on apprend du texte aussi, c'est que Dieu intervient toujours au bon moment dans la vie du Père des croyants. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne tous ces détails-là quant au Père des croyants. Parce que nous aussi, on est des croyants. Nous aussi, on va traverser des périodes difficiles. Nous aussi, on va vivre des moments où Dieu a besoin de venir nous parler. Ça peut être de toutes sortes de façons. Ça peut être par une lecture, ça peut être par la lecture des Écritures, ça peut être par un ami qui vient t'encourager, ça peut être par toutes sortes de moyens, mais Dieu vient souvent te montrer des choses dans les moments difficiles de ta vie. Il est miséricordieux. Il connaît de comment on est fait, qu'on a besoin d'être rassuré, qu'on a besoin d'être... encourager des fois. Alors, il le fait toujours au bon moment. Ça, c'est une caractéristique de Dieu. Il n'est pas avant. Vous remarquez, les êtres humains, c'est toujours trop passé. Dieu, c'est toujours, le timing est excellent. Il sait quand est-ce agir. Et il vient combler des besoins de ses serviteurs. Un des besoins de son serviteur et de sa femme, c'est très certainement celui d'être rassuré. Là, maintenant, sa femme, on va savoir un peu plus tard, quand il va revenir, elle va rire encore. Mais quelque part, elle a fini par comprendre que oui, il fallait qu'elle croie Dieu au mot, comme on dit. Alors, il vient les encourager à persévérer. Et il vient aussi leur apprendre à lui faire confiance. On a donc de la misère à faire confiance à Dieu. Je ne sais pas vous autres, là. On a toute la misère à faire confiance à Dieu. Ça prend du temps. Il faut que le Seigneur t'envoie des expériences. Tu vis des expériences et à un moment donné, tu finis par comprendre que peu importe dans quelle situation tu es, l'Ancien Testament est bourré d'endroits où, des fois, les personnes sont dans un état... Prends David qui était dans... Il était sûr qu'il était pour mourir, il était dans la caverne, puis... Et c'est là qu'il intervient à Dieu, il confie son problème à Dieu. Et Dieu intervient, toujours par des façons qu'on ne peut même pas imaginer. Mais nous, c'est pareil. Quand on a des moments de découragement, n'hésitons pas à demander au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Le Seigneur est fidèle et est tout puissant pour accomplir ses promesses. Un livre à maison, une brique que j'avais imprimée sur Internet, toutes les promesses de Dieu dans toute la Bible au complet. Classé par catégorie. Il y en a des centaines, si ce n'est pas des milliers, je n'ai jamais compté. Là. Mais Dieu fait une multitude de promesses dans les Écritures. Et souvent, dans ces livres-là, ce qu'on va nous dire, c'est que n'oublie pas de réclamer à Dieu les promesses qu'il a faites. Il ne faut pas se gêner. Il l'a promis. Puis s'il l'a promis, on peut réclamer l'accomplissement de la promesse. On ne le fait pas souvent, ça. J'avoue bien humblement que je ne l'ai pas fait souvent. Mais il reste que Dieu a fait des promesses. Souvent, en lisant un livre sur les promesses, je pense que j'en ai vu un quelque part en arrière. C'est important de connaître les promesses de Dieu et de les réclamer. Deuxième application, apprenons d'Abraham des choses dans son comportement qu'on a vu aujourd'hui. Sa hardiesse a intercédé pour les siens. Il intercède pour son fils. N'est-ce pas que c'est une leçon pour nous aujourd'hui de persévérer à intercéder pour nos enfants, nos bien-aimés, nos pères, nos mères, nos pères, nos grands-mères, nos grands-pères, nos oncles, nos cousins, nos cousines. Lâchons pas, comme on dit, parce que des fois, après quelques années, c'est vrai qu'on se décourage. On demandait à Dieu, bon, disons, le salut de mon fils, je l'ai pas vu encore. Ça veut-tu dire que parce que je ne l'ai pas vu, je ne le verrai jamais? On vient d'avoir une leçon, 25 ans, au jeu de Dieu, c'est rien. 25 ans, à mes yeux, ça, c'est long. Mais Dieu est capable. Alors, persévérons à demander des choses. Alors, on a aussi l'exemple d'apprentissage aujourd'hui de l'obéissance exemplaire. Dieu avait dit, tout le monde de la maison est circoncis comme signe de l'alliance, et il l'accomplit à la lettre, immédiatement, sans discussion. Alors, comme lui, ayons à cœur le salut de nos proches et persévérons dans l'intercession. Adorons notre grand Dieu pour sa miséricorde insondable. Amen.
Amen.